Europe 1.
Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au cœur de l'histoire. Dans cet avant-dernier épisode en deux parties de notre série sur Élisabeth II, je vous raconte une période difficile pour la reine qui ne mesure pas l'impact de la mort de Diana et se rend impopulaire. Elle va alors devoir restaurer l'image des Windsor au prix d'une reconquête difficile. Seconde partie, retrouver son peuple. Alors que le monde entier, stupéfait et bouleversé par la mort brutale de la princesse de Galles, suit à la télévision des reportages en boucle sur la vie de Diana, la reine Élisabeth II fait disparaître tous les téléviseurs du château de Balmoral, sauf un dans sa propre chambre, mais il restera éteint. Par cette réaction, elle veut protéger ses deux petits-fils. Elle ne veut pas qu'ils voient les horribles images de la tragédie du pont de l'Alma, ni celles de leur mère rayonnante et pleine de vie. Elle a raison. William et Harry sont déjà assez bouleversés pour ne pas ajouter de l'horreur au chagrin. Mais en prenant cette décision, Élisabeth II et Philippe vont se couper du monde et de l'émotion ressentie au niveau planétaire et plus encore par leurs propres sujets. Bien sûr, eux aussi ont été touchés par la mort de Diana à seulement 36 ans. Mais pour Élisabeth II, il ne s'agit que d'un deuil familial. Diana n'était que son ex-belle-fille. Elle n'était plus Altesse royale. Il n'y a donc aucune raison de mettre des drapeaux en berne. La souveraine envisage un enterrement en petit comité et l'inhumation de Diana dans le carré royal de Frogmore, non loin des tombes du duc et de la duchesse de Windsor. Avant de partir pour Paris, Charles demande à la gouvernante Tiggy Legge Burke de se rendre d'urgence à Balmoral pour tenter de gérer la douleur des enfants. De même, la princesse Anne arrive à Balmoral avec son fils Peter, 20 ans, et sa fille Zara, qui en a 16. Elle pense qu'ils seront un secours pour leur cousin. Il faut rappeler que William et Harry ont respectivement 15 et 13 ans. Ce cocon familial, si nécessaire soit-il, empêche la souveraine de mesurer l'ampleur de l'émotion mondiale et de la réponse attendue. Le comportement de la famille royale, accusée de se confiner à Balmoral, déchaîne les foudres de la presse et d'une grande partie de la population. Un grand quotidien titre « Où est notre reine ?» Il faudra toute l'énergie et l'obstination du Premier ministre Tony Blair et du prince Charles pour convaincre Élisabeth de rentrer d'urgence à Londres afin de manifester sa compassion, faire mettre les drapeaux en berne et prévoir des obsèques solennelles. Là-bas, une foule immense vient déposer des montagnes de fleurs sur les grilles de Buckingham Palace, du jamais vu. Il y en a aussi devant les grilles de Balmoral. La reine consent enfin à ce que le drapeau au-dessus de Buckingham Palace, qui n'était pas hissé puisqu'elle était absente, soit enfin visible et mis en berne. Ce n'est que le 5 septembre, après 6 jours d'un silence devenu une faute politique, que le couple royal revient à Londres. Et il était temps, car entre-temps, le chagrin s'est transformé en colère. La foule commence à brandir des pancartes sur lesquelles on peut lire « Windsor assassin ». Les excès de la colère. À peine arrivée à Buckingham Palace, la reine et son mari se livrent à un exercice périlleux et inédit. Ils sortent à pied du palais et franchissent les grilles qui disparaissent sous les fleurs. La foule, silencieuse, est hostile. Néanmoins, Élisabeth et Philippe font preuve de courage. Ils restent là un moment, lisant les cartons et messages qui accompagnent les fleurs. Ils tentent même un dialogue avec la foule désemparée. À la demande du Premier ministre, le prince Charles a insisté auprès de sa mère pour qu'elle se livre à un deuxième exercice tout aussi périlleux, une déclaration télévisée depuis le palais en hommage à son ex-belle-fille. Vêtue de noir, lunettes sur le nez, ce qui est très rare, avec à l'arrière-plan la foule qui se presse encore devant les grilles du palais, la reine déclare
« La princesse de Galles était un être exceptionnel et doué. Je l'admirais et la respectais pour son énergie et son engagement envers les autres. Quiconque a connu Diana ne l'oubliera jamais. En ce qui me concerne, je crois qu'il y a des leçons à tirer de sa vie et de l'extraordinaire et émouvante réaction à sa mort. »
Élisabeth II veut montrer qu'elle reconnaît son erreur. Ce faisant, elle tente de sauver l'image royale gravement atteinte par cet épisode. Sur le plan logistique, les obsèques solennelles de Diana ne posent pas un grand problème. Les funérailles de la reine-mère Elisabeth sont prévues depuis longtemps. C'est ce cérémonial que l'on appliquera pour celle de Diana. Sur la composition du cortège, ce sont les communicants du Premier ministre qui prennent le relais. Ils veulent en faire un spectacle bouleversant et imposer aux deux enfants de suivre à pied le cercueil de leur mère. Le prince Philippe s'oppose à ce supplice infligé à des enfants déjà traumatisés. Il n'obtiendra pas gain de cause, mais William, lui aussi, refuse. Il finit par accepter à condition que son grand-père soit à ses côtés. On verra donc, derrière le cercueil de Diana, le duc d'Édimbourg, William, le comte Spencer, frère de Diana, Harry et le prince Charles. Tout au long de ce pénible trajet d'environ 1,5 km entre le palais de Saint James où le cercueil avait été déposé et l'abbaye de Westminster, Philippe ne cesse de parler à voix basse à William pour le soutenir. Ce samedi 6 septembre 1997, une foule immense est massée le long du trajet et 2 milliards de téléspectateurs suivent la cérémonie. Dans l'abbaye, l'assemblée est à l'image de la princesse défunte. Il y a des stars, de Tom Cruise à Steven Spielberg, de Karl Lagerfeld, de John Galliano. Pas de chef d'État, mais certaines épouses de dirigeants se sont déplacées comme Hillary Clinton, Bernadette Chirac et Suzanne Moubarak. Elton John, grand ami de la princesse, chante pour elle « Candle in the Wind ». Mais le moment fort de cette cérémonie est le terrible discours prononcé par le frère de Diana, le comte Charles Spencer. Il ne rend pas un hommage à sa sœur sensible, belle, pleine d'humour et de joie de vivre. Il se livre à un véritable réquisitoire et s'en pense successivement à la presse et au Windsor, déclarant vouloir préserver ses neveux de l'absence d'humanité dont il vient d'être témoin. L'émotion est si forte qu'il est applaudi à l'intérieur de la cathédrale, tout comme à l'extérieur où des haut-parleurs retransmettent l'office. Un camouflet terrible pour la famille royale. Les funérailles de Diana se sont transformées en règlement de compte et en procès. Charles Spencer a oublié que les torts étaient largement partagés. Après la cérémonie, Diana n'est pas inhumée à Windsor, mais à Althorp House, le fief des Spencer au nord de Londres. Elle repose dans un caveau aménagé sur une île au milieu d'un étang. Pour la reine et la famille royale, les obsèques de Diana ont certainement été un calvaire. Élisabeth II va néanmoins tenter de renouer avec la confiance et l'estime populaire. Et le calendrier va l'y aider. Le 20 novembre 1997, dans cette même abbaye de Westminster, la souveraine et le duc d'Édimbourg célèbrent leur noce d'or, 50 ans de mariage. C'est un événement heureux pour tenter de faire oublier la gifle subie 2 mois et demi plus tôt au même endroit. L'Europe couronnée s'est déplacée pour assister au service d'action de grâce du couple. Les souverains belges, Albert II et Paola, accompagnés de la reine Fabiola, la reine Margrethe II de Danemark et son époux et leur fils aîné, le grand-duc de Luxembourg et sa famille, les dynasties régnantes de Suède et de Norvège, même l'ex-roi Michel de Roumanie, qui était le seul ayant assisté au mariage d'Elisabeth et de Philippe en 1947, où il avait rencontré sa future épouse Anne de Bourbon-Parme, est venu. La solidarité monarchique européenne s'est manifestée. Élisabeth II apparaît épanouie. Tous ses enfants et petits-enfants sont là, y compris William et Harry. Après la cérémonie, la reine et Philippe se rendent à pied au 10 Downing Street chez le Premier ministre Tony Blair. C'est une démarche exceptionnelle. Il les attend pour les féliciter. Élisabeth II s'arrête souvent et sourit. La foule l'applaudit. Une belle revanche. Après un drink chez le chef du gouvernement, un dîner est donné à Guildhall, dans la salle des banquets, pour plus de 300 invités, dont le couple Blair. Élisabeth y prononce un discours dans lequel elle rend hommage à son époux.
Il a simplement été ma force pendant toutes ces années, et il le demeure. Et moi, et sa famille entière, et ce pays, et beaucoup d'autres, nous lui devons plus qu'il ne le dira jamais. Beaucoup trop fréquemment, je le crains, le prince Philippe a dû m'écouter parler. Nous avons souvent discuté ensemble de mes discours. Comme vous l'imaginez, ses opinions ont toujours été exprimées avec la plus grande franchise.
L'humour est toujours à l'honneur chez les Windsor. Un autre événement, plus surprenant, contribue au retour en grâce de la reine. Un mois après la célébration des noces d'or, la famille royale assiste à Portsmouth au désarmement du Britannia, qui coûtait trop cher aux contribuables britanniques, la bagatelle de 60 millions de livres par an. Elisabeth et Philippe sont particulièrement touchés. Ce bateau, c'est la seule demeure qu'ils ont jamais construite. Peut-être leur vrai chez eux. Il a accompagné toute leur vie, depuis les voyages au bout du monde jusqu'aux croisières familiales d'été pour se rendre en Écosse. Ces images se bousculent certainement dans la tête de la souveraine au moment de faire ses adieux à ce yacht qu'elle avait elle-même inauguré 44 ans auparavant. Et à ce moment-là, l'impensable va se produire. L'espace d'un instant, on la voit, ensemble rouge vif, le regard dans le vague, essuyer sous ses lunettes une larme de sa main gauche couverte d'un gant noir. Est-ce la fameuse leçon de la mort de Diana? Le poids des souvenirs et des sentiments? Celui des années, des échecs et des tragédies qui se sont enchaînés depuis l'Anus Horribilis? On ne saurait le dire avec certitude. Mais ce 11 décembre 1997, pour la première fois de son existence, Elisabeth II, reine du Royaume-Uni, manifeste son émotion publiquement. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour la suite et fin de notre série spéciale Au cœur de l'histoire consacrée à Elisabeth II.
Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio. Il est écrit et présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été réalisé par Jean-François Bussière. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute. Ressources bibliographiques. Elisabeth II par Sarah Bradford, Penguin Books, nouvelle édition 2002. Queen Elizabeth the Queen Mother par William Shawcross aux éditions Pan Books 2009. George VI par Sarah Bradford aux éditions Penguin Books 1989. Elisabeth II la Reine par Jean Descartes aux éditions Perrin 2018.